France Inter, le 18-20.
Je suis crevée, j'en peux plus, je vais prendre un truc pour me retaper. J'ai mal dormi, j'ai un boulot de dingue, j'ai besoin de quelque chose pour assurer. Je dois pas rater cette réunion, est-ce que t'as un remontant? Mon chef me prend tellement la tête, je vais aller fumer quelque chose et ça ira mieux après. Si vous êtes médecin, vous avez peut-être déjà eu ce genre de conversation dans votre cabinet. Peut-être que vous avez prescrit d'ailleurs un anxiolytique, un léger antidépresseur, un tranquillisant ou autre de la même famille, à la machine à café aussi. Vous avez déjà entendu ces phrases-là. Vous savez d'ailleurs que dans l'entreprise, faut pas chercher bien loin pour trouver un Lexomil quand un pétard pour la pause, voire de la cocaïne, là non plus, finalement, c'est pas si compliqué. Tout cela existe vraiment. Les psychotropes, légaux, illégaux, circulent dans le travail avec parfois une grande banalité, mais qui anti-stress paravent de la souffrance au travail, résultat de la porosité entre la vie privée et le travail. Tout cela inquiète les médecins et devrait préoccuper les entreprises. Je pose ce chiffre ici, 20 millions de consommateurs de psychotropes divers sur 29 millions d'actifs. Un chiffre énorme et on en parle ce soir jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Et vous le savez, ce soir, pour cause de mouvement de grève, on ne vous entend pas au téléphone sonne, mais nous avons vos questions sur franceinter.fr et elles ont été nombreuses. Merci. On commence avec celle de Sabine qui nous dit « Ces chiffres ne m'étonnent pas car les conditions de travail se dégradent de plus en plus. Je le vis en ce moment. Ceux qui tentent de signaler des problèmes finissent harcelés par leur hiérarchie. C'est d'ailleurs mon cas. Je suis sous antidépresseur depuis plus d'un an. Je cherche à changer d'emploi. Mais à 50 ans, ça n'est pas évident. » Voilà sur quoi on entame cette téléphone sonne. Et pour vous répondre, Sabine, pour répondre à tous ceux qui vont nous écrire au cours de cette émission, Laure Tachoir est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne directrice administrative et financière et chef des départements clients d'un grand groupe. Désormais, vous êtes professeur associé en management à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour Laurent Carilla.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, médecin spécialiste en addictologie à l'hôpital Paul Brousse. Ce que nous dit, je vais commencer par vous Laure Tachoir, ce que nous dit Sabine, c'est que tout ça a un lien évidemment avec les conditions de travail aujourd'hui, avec le malaise dans le travail qui est peut-être plus important qu'il l'a été d'ailleurs à une période chez nous.
Alors moi, ça me paraît tout à fait évident qu'il y a un lien entre les deux. Moi, je suis une praticienne du management depuis 25 ans. Ça fait 25 ans que je fais du management dans l'industrie. Enfin, en tout cas, jusqu'à l'année dernière, puisque maintenant, effectivement, j'ai bifurqué vers l'enseignement, justement pour former les nouveaux managers. Et c'est vrai que en 25 ans, j'ai vu la situation se dégrader de manière massive et l'augmentation régulière de gens qui consommaient des produits autour de moi, quoi.
Mais est-ce que vous les avez vus plonger d'abord dans le travail, c'est-à-dire se sentir de moins en moins bien, être moins en moins accepté à l'intérieur de l'entreprise et choisir cette solution-là ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous avez plusieurs types de réactions possibles quand vous êtes sous pression au travail. Et ça, je l'ai vraiment constaté très, très régulièrement. Et puis, j'ai travaillé à la fois dans des PME et dans des grands groupes. Donc, j'ai une vision un petit peu globale de la situation, même si elle est effectivement liée à mon expérience. Et c'est vrai qu'on a trois réactions possibles. Soit les gens fonce dans le travail et se saoule de travail et rentre complètement là-dedans
et finissent en burn-out
en s'oubliant parfois et en finissant en burn-out. Vous avez aussi des gens qui deviennent totalement désengagés, qui se mettent en protection et qui viennent entre guillemets faire leur 8 heures mais qui ne sont plus du tout impliqués dans leur travail et puis vous avez des gens révoltés qui refusent, qui renaclent, qui alertent, qui sont pour moi des lanceurs d'alerte sur ce sujet-là et qui souvent se font effectivement mettre dehors, quoi.
Laurent Carilla, vous qui êtes psychiatre et médecin spécialiste en addictologie, vous envoyez beaucoup des gens comme ceux que Laure Tachoir est en train de décrire.
De plus en plus, en fait, on voit arriver en consultation. Moi, je m'occupe de l'activité de consultation dans le service. On voit arriver des gens pour des demandes d'aide d'addiction à des substances, hein, ça peut être des psychotropes légaux ou des substances illicites, hein, comme la cocaïne, notamment la cocaïne. Et quand on cherche un peu l'histoire, c'est un des facteurs principaux de déclenchement, c'est le stress au travail, le stress induit par le travail, et on recherche systématiquement maintenant, suite à l'épuisement psychique des gens, l'épuisement professionnel, on recherche aussi des addictions au travail, parce que c'est une donnée méconnue, et il y a des gens qui deviennent addicts au travail, pour échapper à la pression qu'ils ont.
Daniel Messager, je
est-ce que c'est pas la
copine du chef.
Est-ce que c'est pas la première addiction justement? On pourrait commencer par une addiction au travail, et puis comme il faut tenir, parce que cette addiction au travail demande une performance importante, puisqu'il faut tenir, on passe à d'autres addictions. Mais la première addiction, ce serait celle-là, mais elle a été induite par un changement de management, ce que vous écriviez, Laure Tachoir, qui s'est progressivement installée dans les 20 dernières années.
Oui, c'est possible. C'est de toute façon, maintenant, il faut systématiquement rechercher ce qu'on appelle le workaholisme, hein, donc cette addiction au travail. Mais les motifs pour lesquels viennent les patients, ils viennent pas pour « je suis addict au travail ». Ils viennent pour « je suis addict au benzo », enfin au tranquillisant, « je suis addict au cannabis », »,« je suis addict au cannabis à l'alcool ». Enfin, vous voyez, c'est plein de motifs, tout
mais
mélangé.
Mais vous le faites, le lien,
moi, je le fais à l'envers.
Laurent Carilla, c'est ça, vous le faites à l'envers. Mais à quel moment, eux, le font effectivement aussi dans le bon sens, en comprenant que s'ils sont addicts à ça, c'est précisément parce qu'il y a eu un problème dans le travail.
On reconstruit les choses, si vous voulez. On reconstruit les choses, c'est-à-dire qu'ils viennent pour un motif, on va dire, tranquillisant, par exemple. Tranquillisant et j'arrive pas à dormir, donc je prends des tranquillisants. Vous voyez, donc c'est quelque chose complètement banal finalement. Et quand on reconstruit les choses, et ben on voit que le travail est source de stress, l'environnement est source de stress, et que chez certains, ben ils sont addicts au travail.
Il y a Julia qui nous écrit de Paris, qui nous dit « J'ai 35 ans, mon travail est très stressant, j'ai des responsabilités dans mon entreprise, je manage une équipe dans un très grand groupe, je prends du Xanax pour dormir, sinon je n'y arrive pas ». Et ça aussi, j'imagine, ça fait partie des choses que vous entendez beaucoup. « J'y arrive pas, je vais jamais y arriver
en fait ». Bah oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on consomme des substances, là en l'occurrence le Xanax c'est un équivalent de drogue légale, c'est un tranquillisant d'action rapide, donc on a des effets immédiats, si vous voulez, mais on peut s'accrocher vite, plus on est vulnérable au truc, plus on va s'accrocher vite. Donc si on est sous stress permanent, on va prendre ça, ça va calmer un peu, ça va pas être suffisant, et il y a ce qu'on appelle un phénomène de tolérance, c'est-à-dire que on va augmenter nos doses pour essayer de tenir le coup.
Mais attendez, vous dites
Daniel Messager. Et pardon Daniel, d'ailleurs tout à l'heure je vous ai pas présenté.
Oui, j'étais un peu oubliée.
Donc bonsoir,
c'est pas grave,
tellement désolée. Vous êtes spécialiste des questions santé sur France Inter, vous vous appelez Daniel Messager.
Donc la question, oui, vous dites je prends comme si c'était en libre service. Il y a quand même derrière un médecin qui a prescrit. Alors un médecin psychiatre comme vous ou un médecin généraliste, je crois d'ailleurs que les plus grosses prescriptions émanent des médecins généralistes. Donc le message, c'est peut-être quand même en amont de dire aux professions de santé, c'est pas parce que quelqu'un vient vous voir en vous disant je vais pas tenir le coup, j'arrive pas à dormir, que d'office il faut donner une prescription de somnifères.
Vous avez raison, Daniel. Vous avez complètement raison. Moi, je prescris quasiment pas de benzodiazépines, donc le Xanax et toute la bande, l'Exomil, etc., sans faire de publicité. Donc, mais quand, si vous voulez, quand quelqu'un vient dans un état de fragilité extrême qui est induit essentiellement par du stress, il va voir son médecin traitant. Le médecin il attend une solution de son médecin traitant. Donc, c'est vrai que il faut aussi rééduquer. Il y a des recommandations par rapport aux prescriptions, mais tout ça, c'est un nouveau travail à faire. Un nouveau travail à faire de rééducation des choses dans tous les sens, c'est-à-dire dans le sens du public et dans le sens des professionnels de santé.
Ça veut dire qu'on prescrivait trop, on a trop prescrit à un moment, c'était trop facile pour les médecins qui avaient la main
champion
trop lourde.
Champion du monde de prescription de benzodiazépines en France.
Laure Tachoir.
Oui, alors moi je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet-là, mais je pense effectivement que ça a été un moment une certaine facilité. Ceci dit, quand les gens trouvent pas de drogue légale, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut se procurer aujourd'hui relativement facilement et qui sont pas légales. Et puis je voulais insister aussi sur le certains sont drogués au sport, certains sont drogués, voilà, moi au début de ma carrière je voyais surtout des managers drogués au café. J'avais des patrons ou des collègues qui tournaient au café toute la journée. Ils arrivaient à en boire jusqu'à 1,5 litre. Enfin voilà, c'était vraiment, c'était presque devenu un nutriment pour eux quoi. Mais aujourd'hui, on n'est plus au café quoi. Voilà. Et la seule
préoccupation. On n'est pas que au café.
On n'est pas que au café parce que le café ça continue. Puis après, le café c'est aussi un plaisir quand on arrive à le boire avec modération. Voilà,
c'est moins grave quand même. N'allez pas dire aux gens qu'il faut arrêter aussi le café.
Non,
parce
mais
que
je veux
sinon,
dire,
là, non,
le stress était peu important, et le café suffisait, si vous voulez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit une révolution dans l'autonomie des gens à leur travail, parce qu'ils sont de moins en moins autonomes, ils ont des prescriptions de partout, une pression sur les résultats qui s'est énormément accrue, des injonctions paradoxales aussi, c'est-à-dire différentes parties de l'entreprise qui vous prescrivent plutôt d'aller dans une direction ou dans une autre, et finalement, c'est l'opérateur de base au bout de l'entonnoir, là, qui doit quasiment choisir entre les injonctions paradoxales qu'il a des différents types de métiers dans l'entreprise. Ça, c'est extrêmement angoissant et stressant pour les salariés.
Moi, j'aimerais bien connaître le crescendo, en fait. Vous vous dites qu'au début, effectivement, les gens étaient tous accros au café. Mais alors, si on commence au café, et objectivement, comme nous tous, ça monte comment ? Pour arriver jusqu'où, en fait, est-ce qu'il y a, mais quelque chose qui ressemblerait à...
une escalade.
Une escalade comme les drogués sont cannabis, cocaïne, héroïne.
La théorie de l'escalade, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, on fait des escalades quand on est vulnérable.
Donc là, il n'y a pas d'escalade.
Non, il n'y a pas d'escalade. Il y a des gens qui vont être vulnérables. Et heureusement, tout le monde n'est pas vulnérable. Et ces vulnérables-là, dans les entreprises, ils ne les repèrent pas. Ou ils ne les repèrent pas assez. Et c'est un vrai, vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'on demande à tout le monde d'être pareil. D'être hyper performant dans une société qui est hyper speed. Avec, on décroche pas, on reçoit des emails à 23h, à minuit, le smartphone, les tablettes. Enfin, c'est devenu un enfer pour les gens. Enfin, je veux pas diaboliser ni ternir l'image, mais c'est une réalité. Donc, certaines personnes vulnérables à ça vont prendre des produits, soit licites, donc prescrits sur ordonnance, soit illicites, comme a dit Laure. C'est-à-dire, on n'a pas d'accès aux médicaments, donc prenons du cannabis, prenons de la coke, prenons des painkillers, enfin des opiacés, etc.
Ça, des antalgiques, très fort.
Laure Tachoir, vous qui avez affaire aux managers toute la journée, est-ce que vous leur apprenez à repérer ça ? Est-ce que ça se repère ? Le gars qui s'est mis au Xanax ou au Lexomil, voire qui fume un joint tous les soirs, est-ce que ça se repère quand on est manager, ça ?
On peut pas forcément tout repérer, c'est clair, mais ce qu'on repère, c'est les changements de comportement chez les gens. C'est-à-dire que quand on est un bon manager, on a du lien avec chacun des membres de l'équipe qu'on manage. Et donc, même si tout le monde ne vous raconte pas sa vie, parce que vous avez des gens qui sont très expansifs, qui vont vous raconter très facilement ce qui leur arrive, y compris les difficultés, et d'autres qui sont plus réservés, mais vous voyez les différences de comportement des gens. Si vous êtes un bon manager, oui, vous pouvez le repérer. Donc, ça nécessite de vouloir repérer ça, parce que une fois que l'entreprise est au courant qu'il y a un risque, que telle ou telle personne prend tel ou tel type de produit, elle ne peut pas faire autrement que de s'emparer de cette question. Donc il y a quand même un vrai tabou qui est que tant que j'ai pas vu, je ne suis pas responsable de la situation.
Daniel Messager.
Oui, mais le tabou, c'est justement, c'est pas tant que je n'ai pas vu, c'est que je ne veux pas voir, parce que c'est quand même pas imaginable que dans une équipe, que ce soit des petites équipes, vous qui avez fréquenté aussi bien des petites entreprises que des grandes, que dans une équipe on ne repère pas quelqu'un qui a un comportement d'utilisateurs de produits XY. On n'a pas parlé de l'alcool jusqu'à présent, mais il faut l'évoquer aussi, parce que c'est quand même la plus grosse consommation avant le cannabis ou avant la cocaïne. Donc, c'est pas possible que dans une équipe, on repère pas quelqu'un qui a ce type de comportement. Donc, c'est qu'on ne veut pas voir, donc c'est qu'on ne veut pas alerter, et que finalement, ça arrange bien que tant que ça tient, tant qu'il n'y a pas eu un accident, tant que ça tient, c'est bien comme ça.
Je partage en effet cette affirmation. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ne veulent pas gérer ce problème. Surtout pas.
Et une question qui va dans ce sens, elle nous vient de Clotilde sur franceinter.fr. Existe-t-il des statistiques d'accidents du travail mesurant l'impact de ces produits ? Et quelle attitude adopter, hiérarchie, collègues, etc. face à un salarié sous-produit dont la vigilance est donc amoindrie ? D'abord, la première question, est-ce qu'il y a des statistiques accidents du travail ou pas ? Est-ce que c'est possible dans certaines professions, peut-être ? Je ne sais pas.
Alors, je sais qu'il en existe. Il y a sur la partie dans la science du travail, on a un certain nombre d'études qui montrent ça. Il y a des chercheurs qui se sont réunis cette semaine dans un colloque très intéressant sur la question auquel j'ai eu la chance d'assister. Donc, j'ai vu Marie-France Maranda, Gladys Lutz et Renaud Crespin, qui sont un peu les sachants et les spécialistes de cette question-là. Ils sont intervenus sur ce type de sujet, et effectivement on voit que les choses ont énormément évolué ces dernières années, et qu'il y a un lien clair entre la désorganisation du travail, l'augmentation du stress chez les gens et la consommation de produits psychoactifs.
Quelques chiffres peut-être ?
Oui, quelques chiffres, parce que l'Académie de médecine a publié un petit rapport il y a quelques jours sur le fait qu'elle souhaite alerter et alerter en entreprise pour organiser une prévention. On va peut-être en parler un petit peu de comment on pourrait prévenir justement justement. Et les chiffres, alors là, ça concernait l'alcool, parce que c'est vrai que c'est quand même un des premiers produits utilisés. L'alcool qui serait à lui seul responsable de 20% des accidents du travail et en cause dans 40 à 45% des presque 600 accidents mortels de travail enregistrés au cours de l'année. Donc, on met d'abord en avant l'alcool et puis ensuite, il y a une succession d'autres produits. Mais c'est vrai que ça entraîne quand même des conséquences très importantes.
Allez, cette question qui nous vient de Julien. Je suis kiné, je suis stressée vis-à-vis des patients, je consomme du cannabis de façon journalière. Ça m'aide énormément, je ne me vois pas faire sans, mon efficacité n'en pâlit pas. Laurent Carilla, est-ce qu'il se leurre, Julien, que forcément son efficacité en pâtit ou pas ?
Il faudrait l'évaluer, mais c'est vrai que là, dans ce qu'il dit, il décrit que des effets positifs de la consommation pour lui. C'est-à-dire qu'il l'utilise à la fois comme un anti-stress et à la fois probablement comme quelque chose qui le relaxe. Mais il faut, à un moment donné, il peut être dépassé par cette question de consommation de cannabis pour traiter les gens, etc. Donc, à mon avis, c'est entre les deux.
Allez, cette question, tiens, de Jimmy, qui nous appelle de Paris, qui nous écrit de Paris. Faut-il instaurer des contrôles antidopage dans les entreprises ? D'ailleurs, est-ce que ça existe ? Laure Tachoir, ça existe dans certaines entreprises de vérifier ?
Alors, c'est toujours la même difficulté. Comme c'est un vrai tabou, c'est possible de le faire aujourd'hui dans un cadre particulier avec la médecine du travail, etc. Mais ça nécessite ensuite d'obliger les entreprises à assumer le problème et à le gérer. Elles ont une obligation de résultat aujourd'hui en matière de conditions de travail et de santé des travailleurs. Donc, c'est une véritable difficulté.
Mais il faut que les entreprises commencent les entreprises commencent à se sensibiliser aux choses. Moi, il y a de plus en plus d'entreprises qui nous demandent de venir.
C'est exactement ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous les voyez
aussi ? Oui, bien sûr. On fait des campagnes, des conférences, etc., de formation et d'information, des salariés, des managers et même des chefs d'entreprise. Parce qu'on ne parle pas assez des chefs d'entreprise. Vous avez des chefs d'entreprise qui se défoncent pour être performant. Et ça, on les oublie toujours, les pauvres, mais quand même.
Bah, si j'allais vous poser la question, ouais. En fait, est-ce qu'il y a un profil type ? En gros, est-ce qu'on peut dire, plus on est cadre, donc on a de grosses responsabilités, plus on peut toucher à ce genre de produit ? Ou est-ce que ça touche tout le monde et tous les niveaux dans l'entreprise, finalement ? Chacun a son niveau de stress, au final.
Ouais, c'est ça, chacun son niveau de stress. Je crois que c'était l'enquête de l'OFDT de 2015 qui disait que, ceux qui étaient sans emploi avaient plus de risques de consommer que ceux qui avaient un emploi. Mais quand on redécoupe toutes les catégories socio-professionnelles, finalement, tout le monde est touché. Et ça dépend surtout de la vulnérabilité de chacun, en fait.
Je suis en CDD, nous dit Gwen. Et j'ai énormément de travail, trop d'objectifs à tenir. J'ai annoncé que je partais car je ne peux plus supporter la pression. Et je ne veux pas céder aux médicaments. Il ne faut pas perdre espoir face aux pressions que l'on peut subir, nous dit-elle. Laurent Carilla, j'imagine qu'évidemment, ce n'est pas toujours facile.
Non, c'est pas toujours facile.
Mais partir, évidemment, que c'est aussi une solution.
C'est une solution, tout à fait. Partir. Et quand on est trop aussi débordé par le stress, par même des symptômes d'allure un peu dépressive, des troubles du sommeil, etc., moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter un thérapeute pour être un peu soutenu sur cette question-là, sans qu'il y ait forcément de prescription médicamenteuse derrière.
Une autre question, là c'est Didier à Nogent-sur-Marne qui nous écrit et qui nous dit « Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre symptôme ? Nous supportons de moins en moins d'être mal aujourd'hui. Est-ce que nous allons, nous, y compris trop facilement, vers des médicaments et autres psychotropes ?» Laure Tachoir.
Alors moi, je suis plutôt en désaccord avec cette idée-là. C'est-à-dire que réellement, il y a eu un changement énorme dans la manière dont les gens sont traités au travail et dont la pression redescend sur leurs épaules. Donc, c'est pas juste une vue de l'esprit et une facilité. Non, ça s'est vraiment transformé. Le travail est segmenté, découpé. Vous avez plus à la tête des entreprises, parfois des top managers, mais juste ceux que j'appelle, moi, des indicatoristes. C'est-à-dire, ce ne sont plus des gens qui pilotent des équipes, des projets, même des budgets. Ce sont des gens qui pilotent des tableaux de bord, qui sont totalement désincarnés. Mmh. Et donc, finalement, pour tenir, pour avoir toujours le tableau de bord au vert, on va prendre des choses qui sont accessibles en fonction des différents publics. Alors, je sais qu'il y a différentes études qui montrent que certains métiers sont plus enclins à ci ou plus enclins à ça. C'est vrai que...
Est-ce que c'est vrai
pour être,
ça,
je pense que c'est existe, vrai. Ouais. Moi, un des derniers grands groupes du CAC 40 dans lequel j'ai travaillé, la consommation de cocaïne, c'était plutôt dans le siège à la tour, à la défense, vous voyez, parce que pouvoir se payer de la cocaïne, il faut déjà avoir les moyens, tout simplement, quoi. Voilà.
Alors après, il y a des choses très classiques, les traders prennent de la coke, dans la pub on prend de la coke, tout
ouais,
ça.
C'est des clichés, ça.
Exactement, donc est-ce que ce cliché existe encore ? Est-ce que,
tout ça est très
démocratisé, là.
Non, ouais, c'est, on y en a partout, donc maintenant on voit toutes les classes sociales arriver du chômeur au PDG avec des problèmes de cocaïne. Donc, et pas que forcément liés au stress du travail. Hein.
Daniel.
Et je me souviens, docteur Carilla, j'étais venue dans votre service il y a quelques années où vous m'aviez aidé à rencontrer un chauffeur routier qui prenait effectivement de la cocaïne pour tenir à cause des horaires, etc. Mais alors, ce que je voudrais savoir, c'est quand ces personnes se présentent devant vous, parce qu'elles ont un vrai problème d'addiction, elles ont peut-être des problèmes financiers. Je me souviens que cette personne, justement, tout son salaire y passait après dans la cocaïne. Donc, comment vous faites pour dire il va falloir décrocher parce que sur un plan de la santé physique et mentale, vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Mais en même temps, la personne doit continuer son travail et en même temps, elle doit continuer les cadences, les horaires. Donc, de quelle façon vous procédez pour aider cette personne et à décrocher et à maintenir son emploi? L'objectif, c'est pas qu'elle perde son emploi.
Mais c'est vrai que, bon, il peut arriver que les personnes qui sont en situation d'addiction, avec l'intensité de la maladie, puissent continuer à travailler. Donc on va faire en parallèle, on va faire un programme de soins en consultation, ou avoir des consultations régulières, hein, c'est des programmes multimodaux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent pour le malade, on va l'aider à arrêter sa consommation et surtout à maintenir l'arrêt de sa consommation, en l'occurrence ces exemples de cocaïne par exemple. Après il arrive que ça soit impossible, que le soin est incompatible avec la poursuite du travail, à ce moment-là, on utilise par exemple une matrice d'hospitalisation de courte durée qui sert de tremplin pour la suite après. Ils reprennent leur travail dans d'autres conditions, etc. Moi, je me rappelle d'un patient, j'ai une idée de patient là qui prenait de la cocaïne, qui travaillait dans un groupe pharmaceutique et qui n'avait pas un poste très élevé, mais il avait un poste de cadre, on va dire, standard, et qui avait d'énormes problèmes de cocaïne. Et j'ai travaillé avec le médecin du travail de son entreprise, avec un des managers sans rompre le secret médical. Ça a pris du temps, mais il a arrêté un an. Il a repris doucement le travail dans une autre activité.
Allez, un témoignage qui nous arrive. Il vient de Lily. Je suis prof en lycée professionnel avec des élèves de plus en plus difficiles à gérer. J'ai eu des deuils familiaux à répétition aussi. Je prends du Xanax et de la fluoxétine pour tenir au travail car je me sens plus forte pour gérer mes élèves en ne dormant que 4 heures par nuit. J'ai 53 ans, 20 ans d'enseignement. Je suis fatiguée, mais à mon âge, ma mobilité de carrière est difficile. On me propose simplement de m'arrêter si ça ne va pas. J'allais dire un cas typique, Laurent Carré.
Ultra typique à la française, entre guillemets. C'est-à-dire grosse pression, fatigue, trouble du sommeil et prescription de benzodiazépines, donc le Xanax, et d'un antidépresseur. Donc probablement que la prescription est justifiée du fait de la symptomatologie, mais c'est vrai que un arrêt peut s'envisager de manière temporaire, mais aussi un grand accompagnement psychothérapeutique peut être très aidant.
Je suis manager dans une équipe de 36 personnes. J'enchaîne parce qu'on est vraiment dans le même genre de problématique. Une équipe de 36 personnes, je suis confrontée à la problématique de la prise de psychotropes et je ne sais pas quoi faire. J'aimerais trouver une solution. J'y tiens vraiment. C'est Didier qui est à Montauban et qui nous pose cette question, Laure Tachoir, et c'est plutôt pour vous. Qu'est-ce qu'il fait, Didier, le manager? Il a ses 36 personnes et il sait qu'il y a un problème. Comment il fait? Il commence par quoi?
Là, souvent, il y a un problème de solitude aussi du manager qui, voilà. Donc, pour moi, la seule solution, c'est de retoucher à l'organisation du travail, puisque c'est l'organisation du travail qui a produit tous ces effets. Donc, la difficulté, c'est que non seulement on dit au manager maintenant, tu dois atteindre tel objectif. Ce qui est normal, je veux dire le grand chef à plumes qu'il a au-dessus, il doit lui dire quel est l'objectif. Hein, il est même payé pour ça. C'est normal que l'objectif soit défini de cette manière-là. Mais après, non seulement on lui dit tu dois aller à tel objectif, mais on lui dit comment il doit l'atteindre. Donc il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Et on ne retrouve de la respiration en tant que manager sur ce type de pression qu'en refaisant quelque chose de collectif. Et aujourd'hui, ce qui manque, c'est beaucoup le collectif. Donc, on pressionne les gens pour que ce soit tous des winners. Enfin, pardon pour l'expression un peu surannée aussi. Mais c'est ça, la réalité. Derrière, ils sont tout seuls. Donc, pour moi, la seule solution, là, c'est de revenir à quelque chose de collectif. Ça veut dire qu'il faut retrouver un groupe de managers du même niveau pour arriver à avoir des pairs, PAIR, pour arriver à discuter ensemble de comment on règle les problèmes, de faire changer parfois les gens de poste, de faire tourner. Enfin,
il faut remettre de la parole et du collectif sur ce problème-là.
Eh bien justement, tiens, le type de management promu en France, nous dit Maude, n'est jamais vraiment abordé. On a éliminé le manager promu par le métier au bénéfice du manager d'objectif. Est-ce que c'est pas là que commence le problème? Vous levez les bras comme ça, les gens ne vous voient pas, mais preuve que oui, visiblement.
Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que finalement, le prescripteur du travail, celui qui va dire comment le travail doit être fait, c'est un manager, top manager, c'est un consultant qui a donné sa prescription de sachant, entre guillemets. Hein, et derrière, on va jamais demander au travailleur lui-même comment ce serait mieux que son travail soit organisé. C'est lui l'expert de son travail, finalement. Et les gens, on nie totalement, finalement, leur professionnalisme. Et cette blessure-là, qui est une blessure importante, moi, je pense qu'elle participe aussi à tout ce malaise et à cette difficulté et à cette prise de produit.
Daniel Messager.
Il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, c'est la médecine du travail. Comment elle peut intervenir? Est-ce qu'elle intervient d'ailleurs? Est-ce que on disait tout à l'heure que les managers, tant que ça tenait dans l'équipe, finalement, ils n'avaient pas trop envie de savoir comment ça se passait. Mais peut-être qu'un jour, il y a un accident. Peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui fait un malaise, quelque chose qui se passe mal. La médecine du travail, elle peut intervenir en amont. Elle a les moyens. Vous le voyez, vous, docteur Carilla, par exemple.
Moi, je travaille.
C'est un acteur avec qui vous travaillez?
Toi, complètement. Je travaille étroitement. Et d'ailleurs, les médecins du travail sont de plus en plus sensibilisés aux questions d'addiction, de conduite addictive, de comportement addictif dans les entreprises. Ils demandent de plus en plus, ils se forment de plus en plus. Et
Mais ils sont alertés par qui? Parce qu'ils vont pas
par les salariés déjà, rien que dans les visites.
Ouais,
pour
voir salariés qui va bien. Ou bien
le manager qui voit un changement de comportement
exactement,
chez un de ses. Parce que moi, j'ai déjà saisi le médecin du travail pour parce que j'étais inquiète pour un de mes gars, quoi. Oui, bien sûr.
Exactement. C'est ça. Et le médecin du travail, c'est un acteur pilier dans la prise en charge en entreprise. Donc. Pareil, dans les formations d'entreprise, les médecins du travail doivent être tous formés.
J'allais vous dire, est-ce qu'ils sont équipés, les médecins du travail, pour gérer ce genre de problème?
Certains, oui. Ceux qui sont bien formés aux addictions, oui. Mmh. Oui. Pas tous.
Et tout le monde n'est pas formé aux addictions,
non.
Daniel.
Oui, vous disiez le manager alerte, mais quand le manager n'alerte pas, encore une fois, parce que finalement, quand ça marche, ça marche. Hein, le salarié qui peut être le copain de quelqu'un, son père, comme vous disiez. Ça le gêne peut-être d'alerter la médecine du travail parce qu'il va dénoncer peut-être un comportement. C'est pas aussi simple quand même.
Non, je dis pas que c'est simple. Hein. Là, je parlais du fait qu'en tant que manager, on est responsable du bien-être au travail de ses équipes. Donc, en tant que manager, on a une certaine légitimité, même si c'est pas toujours facile d'aller dire au médecin du travail, écoutez, je pense que vous devriez recevoir cette personne parce que je me demande si elle a pas une consommation de produits illicites. Je le vois arriver à 8h le matin, ça va, et puis une fois qu'il est passé aux toilettes, il a plus le même comportement. Enfin, vous voyez ce genre de choses là, j'ai pu être amené.
Ou bien rentre de la cantine.
Ou il rentre de la cantine, il tient pas debout. Il doit conduire une voiture de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? En tant que manager, on confisque les clés. Hein, mais c'est vrai que c'est difficile. Ça demande un travail en collaboration avec la médecine du travail. Et moi, je suis un petit peu moins optimiste que mon voisin. Je trouve que les médecins du travail sont très mal formés à ça. Et pourtant, ils envoient arriver de plus en plus.
Pourtant,
qu'il y a 20 millions sur 29 qui consomment quelque chose, ils les voient passer tous les jours.
Et les problèmes d'alcool, alors si effectivement l'usage de certains anxiolytiques est peut-être plus neuf, si la cocaïne c'est encore autre chose, l'usage de l'alcool quand même en entreprise, pardon, c'est terrible à dire, mais ils ne le découvrent pas, ils ne peuvent pas le découvrir, c'est pas possible.
Non, c'est un vrai problème. Mais j'insiste sur le fait que maintenant tout le monde doit être formé dans les entreprises, c'est-à-dire le chef d'entreprise, tous les managers doivent être formés doivent être sensibilisés à repérer des conduites addictives et avec la médecine du travail. Donc c'est toute l'entité de l'entreprise qui doit être sensibilisée aux choses et à ce repérage un peu précoce finalement. C'est-à-dire on doit être intervenir assez rapidement quand on a repéré. Alors on ne demande pas au manager de faire des soins ou de poser un diagnostic. On demande au manager de dire il y a comme disait Laure, c'est-à-dire il y a un problème de bien-être d'un de mes salariés, donc je l'envoie ici pour qu'il se fasse évaluer et après le travail il l'envoie dans un autre service.
Laurent Carilla et Laure Tachoir, d'ailleurs, vous allez pouvoir répondre aussi. Je ne sais pas s'il y a une réponse à cette question. Est-ce que c'est plus facile, quand on a un problème d'alcool, de le dire dans son travail pour qu'on vous aide? Est-ce que c'est plus facile, finalement, quand on est accro à certains médicaments, parce que ça a une autre teneur? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des addictions qui sont plus faciles à avouer de la part du salarié, si bien que c'est plus facile d'aller demander de l'aide, en gros? Laure Tachoir. Pardon si c'est un piège.
Non, c'est pas un piège. Je L'alcool, c'est, je dirais que c'est le plus facile parce que c'est le produit sur lequel on a le plus d'ancienneté aussi.
Moi, visible.
Et ça se voit. Les gens, ils ont une haleine quand ils rentrent de la cantine. Voilà, ils arrivent, ils sont pas clairs. Enfin, vous avez, c'est plus facile à détecter. Moi, je suis pas formée à détecter la présence de tous ces benzodiazépines, si je me trompe pas dans l'appellation. Voilà, je saurais pas forcément repérer exactement quel est le produit, mais
oui. Mais on peut pas le repérer.
On peut pas le repérer. C'est pas notre, en tant que manager, c'est pas notre boulot. Par contre, l'alcool, oui, c'est un problème. Mais je dirais, moi, au début de ma carrière, je voyais plus de gens alcoolisés qu'aujourd'hui. Il y a eu quand même des progrès de fait dans les entreprises sur l'alcool. Mais tout le reste, ça s'est dégradé.
Écoutez ce que dit Martine, qui nous écrit sur franceinter.fr. Je suis dans une entreprise où le problème d'addiction a été pris en compte par la hiérarchie, qui a saisi la médecine du travail, etc. Mais rien n'a abouti. Tabou, déni des collègues, essentiellement défiance vis-à-vis des cadres aussi, dont les intentions ont été dévoyées. Ça prouve, Laure Tachoir, jusqu'à quel point c'est compliqué.
Ben oui, c'est compliqué, parce que suivant la bonne foi, la personne qui va prendre ce problème-là en main, elle peut s'en servir contre le salarié, même si, de manière détournée. Donc il y a toujours une peur chez les gens que ben justement ça soit un argument pour les foutre dehors. Ou voilà, ça existe, ça, c'est clair, c'est la réalité.
Tiens, c'est pour vous ça, Daniel Messager, parce que je sais que c'est un peu votre obsession, mais par ailleurs vous avez raison. Hein, je prends l'émission.
Quelles sont les obsessions de
l'émission. Attendez, vous allez voir tout de suite. Je prends l'émission en cours, nous dit Hervé. Et pourquoi ne parle-t-on pas du tabac? Ah. J'étais sûre que ça allait vous plaire. Je me suis remise à fumer lorsque je suis stressée, je fume une cigarette. Donc pourquoi l'État s'intéresse-t-il pas aux causes avant d'augmenter le prix du paquet, etc. Mais est-ce que le tabac est à mettre dans le même paquet, que ce dont on parle là,
évidemment.
L'alcool,
évidemment. Excusez-moi, Daniel, je vous ai pris votre question.
Mais non, mais
le psychiatre
va répondre mieux que moi.
Non, mais vous pourrez répondre, Daniel, je vous promets. Allez-y, Monsieur Carilla.
Bien sûr, le tabac. Mais oui, le tabac, c'est une drogue. Le tabac, c'est la drogue qui tue le plus de monde dans le monde. C'est la première cause de mort évitable. Ça tue une personne sur deux. Je veux dire, c'est la pire des drogues. C'est pire que la cocaïne. Donc oui, le tabac, il faut le prendre en compte. Là, en ce moment, c'est le congrès de la Société française de tabacologie d'ailleurs. Donc ils insistent, je suppose, sur ces histoires de consommation de tabac en entreprise, etc.
Et l'augmentation de consommation de tabac était clairement établie dans le milieu professionnel quand il y a justement des stress, des problèmes à gérer. Il y a clairement une augmentation de la consommation du tabac. Oui, c'est encore un produit licite.
Allez, tiens, en rafale, je suis chef d'entreprise, nous dit François. J'ai une petite entreprise à gérer. Il m'arrive d'arriver jusqu'à vomir avant de commencer la journée. Il y a des contraintes qui sont de plus en plus terribles à gérer. Dans le même état d'esprit, nous dit Valérie, je suis cadre dans une collectivité territoriale. On a pas mal de pression avec des modifications de management. J'ai autour de moi des personnes devenues addictes car elles sont perturbées par ce nouveau management. Pour les benzos, nous dit, je n'ai pas son prénom, c'est dommage. Ça va plus vite pour un médecin généraliste de prescrire que d'écouter son patient pendant 40 minutes. Ça fait pas plaisir à entendre, Laurent Carilla.
Ça dépend. C'est possible, mais
vrai.
Non. C'est
pas chez vous.
Non, moi je prescris pas de benzos.
Vous l'avez dit.
Ouais. Que dans des conditions médicales bien précises. Mais parce que c'est tellement addictogène, les benzodiazépines. Enfin, je veux pas faire flipper les gens, mais...
Mais
les,
si on peut dire un mot quand même les sur benzos, les effets secondaires, sur l'addiction...
Les benzodiazépines, ce sont des drogues très addictives si elles sont... si la prescription est pas respectée, si vous voulez. On voit des ordonnances de certains patients et patientes, des ordonnances de 20 ans de benzodiazépines, comme je prends des exemples, le Lexomil, le Xanax, etc., le Tranxen, enfin tous ces trucs-là. Là, on est dans des phénomènes de consommation addictive, si vous voulez. Les benzos, c'est 3 mois max, le sevrage inclus. Donc, on est dans cette question-là de... C'est vrai qu'on peut prescrire des benzos, mais il y a plein d'autres alternatives. Et les médecins généralistes commencent quand même beaucoup à se former sur cette question-là des benzodiazépines, de détranquillisants en règle générale.
Il a aussi été démontré, mais ça vous le savez autant que moi, qu'il y a aussi un lien dans certaines maladies neurodégénératives pour les personnes qui le prennent sur des dizaines d'années, comme la maladie d'Alzheimer par exemple, des troubles de la mémoire, etc. Donc il y a quand même des effets secondaires très très importants.
Allez-y, Laure Tachoir.
Oui, je voulais juste rajouter que faudrait pas se focaliser uniquement sur la souffrance psychique qui est réel et qui est lié à l'organisation du travail, à la segmentation des tâches, etc. Mais aussi à tous les troubles musculo-squelettiques et puis au vieillissement de la population. Mmh. On a reculé l'âge de la retraite. Les gens sont au travail de plus en plus tard. Bon, bah, y a aussi une partie des produits qui sont pris simplement pour tenir physiquement, parce que la douleur physique, ça existe.
Tout à fait.
Et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Voilà, tout le monde n'est pas accro à un produit juste parce que c'est difficile de tenir le stress.
Et tout le monde n'est pas derrière un bureau non plus.
Tout le monde n'est pas derrière un bureau. Voilà, quand on a 2 tonnes de produits à passer à la caisse et qu'on est à Lidl, et ben quand on a 62 ans, ça doit être compliqué.
Je m'appelle Maxime et voilà 2 ans que je suis interne en médecine. Je travaille 60 à 80 heures par semaine et la consommation d'alcool, parfois en grande quantité, me permet de dormir, d'oublier le stress de la journée. Malgré cela, je reçois chaque jour des patients stressés au travail toute la journée et pourtant je suis contre l'utilisation d'anxiolytiques. Je préconise le sport à mes patients. Maxime qui devrait peut-être s'appliquer aussi sa propre recette, mais on comprend que c'est compliqué pour lui.
Et aussi, je peux aider Maxime sur certains points, finalement. Il faut qu'il arrive lui aussi à appliquer certaines des règles qu'il prodigue à ses patients. Parce que consommer de l'alcool comme ça, comme un anxiolytique, finalement, c'est un risque pour Maxime.
Tomber et oublier la journée. Laure Tachoir, tout à l'heure, vous parliez du sport. Vous disiez attention, pas trop de sport. J'y pense avec la question de Maxime.
Oui, parce que moi, j'ai des collègues et des patrons même qui étaient des super accros au marathon, qui couraient tous comme des malades.
Pas trop de sport, moi, je comprends ce que vous me dites. Hein. Ça me parle.
Alors, sans tomber dans le Winston Churchill avec No Sport, voilà, le sport, c'est aussi une manière d'avoir des endomorphines à un niveau. Voilà, puis si on court toute la journée, qu'on court tout le temps, etc. J'en ai même vu qui allaient jusqu'à faire des trucs ultra, vous voyez, où on court, on fait du vélo, on monte la montagne,
les trucs,
je ne sais quoi. Là, voilà,
ouais, ouais. C'est
donc,
très
il y en a qui sont aussi accro à ce type de pratique.
Christian nous pose une question qui est frappée au coin du bon sens. Pourquoi ne soigne-t-on pas les gens qui envoient des mails à minuit plutôt que ceux qui les reçoivent? Et c'est à la fois c'est drôle, mais en même temps il a raison, non, Laurent Carilla?
Ouais, je pense qu'il y a des
Il y a aussi une attitude de la part des managers ou pas d'ailleurs.
Tout à fait, ouais, ça doit faire partie de la rééducation des managers, ça, des managers et des chefs, entre guillemets, c'est-à-dire le côté persécutoire du mail à minuit ou du mail à 3h du matin où on doit répondre tout de suite. Parce que maintenant, on est dans l'immédiateté, je veux dire. On a tous des smartphones. Et on parle pas assez aussi de cette dépendance aux écrans. Hein, mais je veux dire, il y a cette dépendance à des substances, il y a cette dépendance à l'alcool, il y a cette dépendance au tabac, mais il y a aussi la dépendance aux écrans qui fait partie des problèmes actuels. Hein.
Voilà, chef et autres managers qui nous entendaient, soyez bienveillants avec les gens avec lesquels vous travaillez. Merci à tous d'avoir participé au téléphone. Merci pour toutes ces questions, très nombreuses questions que vous nous avez envoyées sur franceinter.fr et merci à vous, Daniel Messager.